Excellente matinée, bienvenue sur Radio Chablais, bon réveil. 13 janvier 2026. Il est 6h, décollage pour vous accompagner ça jusqu'à 9h. C'est parti!
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Et on démarre cette heure-ci avec le journal, bien sûr, présenté par Xavier Bourgeot. Bonjour Xavier.
Bonjour. La pression ne retombe pas pour Valérie Dietli. Un nouveau rapport du Grand Conseil vaudois, publié hier, dresse un constat sévère sur la conseillère d'État. Après celui de Jean Studer au printemps, ce sont désormais les commissions de surveillance qui dénoncent un style de management jugé défaillant. Défiance envers l'administration, pression constante sur les collaborateurs, recours massif à des consultants externes. Le rapport évoque une véritable souffrance au sein du département et pointe l'inexpérience politique de la ministre ainsi qu'une collégialité affaiblie. Sur cette base, la délégation parlementaire formule 24 recommandations pour rétablir la confiance et assurer le bon fonctionnement des institutions. Sa présidente, Céline Beau, précise à qui elle s'adresse.
Ça s'adresse au Conseil d'État. Donc après, chaque membre du Conseil d'État peut se sentir plus ou moins visé, mais c'est au Conseil d'État, et nous espérons que ces recommandations seront prises en compte, et comme on l'a dit également, il y aura quand même un suivi avec les commissions de surveillance ensuite.
Céline Beau, micro de Julie Guay. Et malgré ses critiques unanimes, la délégation n'appelle pas à sa démission. Valérie Dietli conserve ses fonctions alors qu'une enquête pénale est toujours en cours.
Vérosa ne tranche pas encore sur la question d'une fusion.
À la suite d'un sondage mené l'année dernière, la municipalité a constaté que 60% de la population reste favorable à une union avec une autre commune. Afin d'approfondir la réflexion, les autorités souhaitent engager le dialogue lors de soirées de débat, dont la première est prévue le 2 février prochain. Parmi les autres thématiques abordées dans le sondage, près de 40 personnes signifiaient être prêtes à s'engager au sein de la municipalité. Un tel engagement est important, selon le président de Vérosa, Gilles Donadello.
La population a pris conscience de cela. Maintenant, j'espère, je le redis là, j'espère vraiment qu'on trouvera ces prochaines années des gens qui seront prêts à s'investir. Je pense que c'est toute une démarche qu'il va falloir commencer à mettre en place d'ici une année pour garantir une certaine pérennité au niveau du conseil municipal, pour autant que la commune ne s'engage pas dans un processus de fusion avec une autre commune.
Près de 250 personnes ont participé au sondage, soit environ un quart de la population communale. C'était un sujet de Valérie Favre.
Chanter pour soutenir les personnes touchées par la tragédie de Crans-Montana.
Une idée imaginée par un artiste de Morgin, Valentin Derbé, en collaboration avec une professeure de chant de la Vallée, Eva Klirovska. Le but, enregistrer une vidéo où de nombreux chanteurs interprètent le titre de Sinéad O'Connor, In This Heart, en chœur. Un projet spontané auquel Eva Klirovska a immédiatement adhéré.
Quand j'ai entendu cette idée, je dis « waouh, mais c'est merveilleux, ça me parle vraiment ». Alors, bien sûr que oui, sans savoir vraiment à quoi ça va mener. Je ne savais même pas qu'est-ce qu'on va chanter au début, parce que je ne connaissais pas vraiment la chanson. Mais je dis, l'idée, c'est vraiment extraordinaire de réunir les chanteurs de la région, les choristes, on en a plein des chorales, qui ne chantent nécessairement jamais ensemble. Puis voilà, une occasion se présente très glorieuse, quelque part, et touchante, profonde. De l'occasion qui n'arrive pas souvent, et c'est surtout spontané. Donc on compte sur l'ouverture d'esprit, sur la spontanéité de tous les chanteurs de la région.
Des propos recueillis par Léa Journaux. L'enregistrement se fera à l'église du Bouvray ce soir et sera ensuite diffusé sur les réseaux sociaux en hommage aux victimes des personnes touchées par l'incendie de Nouvel An de Crans-Montana. La Suisse imposera-t-elle à UBS d'avoir des fonds propres supérieurs? Une large majorité l'exigeait au printemps 2023, au lendemain de la débâcle de Crédit Suisse et sa reprise par UBS. Près de 3 ans plus tard, UBS rejette les exigences fédérales et la grande banque a trouvé des alliés. À Berne, les explications de notre correspondant Serge Jubin.
La nouvelle réglementation sur les fonds propres pour les banques préconisée par le Conseil fédéral était en consultation jusqu'à la fin de la semaine dernière. On savait UBS et son patron, Sergio Ermotti, très remonté contre cette exigence, estimant que le cavalier seul de la Suisse dans ce domaine désavantageait UBS au niveau international. D'ailleurs, depuis l'élaboration de la loi par la grande argentière Karine Keller-Souter, la valeur d'UBS sur le marché a perdu jusqu'à 27%. Or, dans sa croisade pour ne pas être soumise à une réglementation renforcée, UBS a des alliés sortis du bois ce lundi. D'abord l'Association suisse des banquiers. Même si UBS est seule concernée par le renforcement de l'exigence de fonds propres, la branche bancaire se montre solidaire. Elle exige d'étudier d'autres mesures pour ne pas péjorer la compétitivité de la place financière et économique suisse. Autre allié d'UBS, la fêtière des grandes entreprises Économie Suisse. Elle estime que notre pays ne peut pas se permettre un nouveau, je cite, « Swiss Finish » considéré comme disproportionné. Quel traitement les institutions fédérales feront-elles désormais de l'exigence de couverture financière à 100% des filiales étrangères du BS ? Ce sera un dossier brûlant du Conseil fédéral et du Parlement ces prochains mois.
La ville de Minneapolis et l'État du Minnesota ont annoncé lundi poursuivre en justice l'administration Trump contre les opérations d'envergure de la police fédérale de l'immigration. Au cours d'une de ces opérations, il y a 5 jours, une femme américaine de 37 ans, Renee Good, a été abattue au volant de sa voiture par un agent de la police de l'immigration ICE. Sa mort a déclenché une vague de manifestations à travers le pays au cours du week-end. Et après la mort de Renee Good, Donald Trump a immédiatement défendu la thèse de la légitime défense du policier, une version fermement contestée, en particulier par l'opposition locale démocrate. L'État de l'Illinois, un autre État démocrate ciblé par l'offensive anti-immigration de Donald Trump, a initié une procédure judiciaire similaire.
La répression des manifestations en Iran a fait plus de 600 morts depuis le début de la contestation selon une ONG.
Les autorités tentant lundi de leur côté de reprendre le contrôle de la rue avec des rassemblements massifs dans le pays. À l'appel du président Massoud Pezeshkian, des milliers d'Iraniens ont envahi la place de la Révolution au cœur de Téhéran, en soutien au pouvoir confronté à l'un de ses plus grands défis depuis la proclamation de la République islamique en 1979. Leur mobilisation est un avertissement aux États-Unis, a réagi le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, alors que Donald Trump a menacé plusieurs fois d'intervenir militairement. Et demain de sport en football, Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Le club espagnol a annoncé lundi la résiliation du contrat de l'entraîneur de 44 ans d'un commun accord. L'ex-défenseur espagnol Alvaro Arbeloa, champion du monde en 2010 aux côtés de Xabi Alonso, est jusqu'ici à la tête de l'équipe réserve, va le remplacer sur le banc, a annoncé le Real dans un second communiqué. Et football toujours, le Paris Saint-Germain a été éliminé hier soir dès les 16e de finale de la Coupe de France. Le double tenant du titre a été battu 1-0 par son voisin, le Paris FC, au Parc des Princes. Cette élimination surprise constitue le premier accroc majeur dans la saison du PSG, qui a bouclé une année 2025 historiquement faste avec 6 titres remportés sur 7.